Chers amis, lors de notre dernier entretien, nous avons regardé le chapitre 18 et vu que la population mondiale dans son ensemble se lamentait à la chute de Babylone. Mais d'autres populations se réjouissent. Et c'est ce que nous allons voir au début du chapitre 19. Et nous allons voir deux foules distinctes se réjouir de la chute de Babylone. Lisons ensemble les versets 1 à 8. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme le bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia !» Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Vous avez pu le noter, deux foules se réjouissent. L'une est au ciel et l'autre sur la terre. Alors après l'intervention de la première foule, les 24 anciens et les 4 êtres vivants interviennent. Mais ils interviennent pour la dernière fois dans le livre d'Apocalypse. Parce qu'après, ils seront rejoints par les élus. Et puis à partir du verset 5, une voix demande à une autre foule d'adorer. Et cette foule adore de nouveau au verset 6 à 8. Et après, au verset 9 et 10, que nous n'avons pas lu, il y a une intervention de l'ange et une intervention de Jean. Alors examinons maintenant les louanges de cette foule qui se trouve au ciel. En réalité, ces deux foules répondent à une injonction qui avait déjà été faite au chapitre 18 et au verset 20. Je vous invite à le relire. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Il y a là déjà quelque chose d'intéressant, parce que le ciel lui-même, toute la société céleste est intéressée dans le sort de la terre. Ça n'est pas seulement les hommes sur cette terre qui sont restés fidèles, qui se réjouissent de la chute de Babylone, mais le ciel entier se réjouit. Et donc on va voir ces deux foules se manifester. Alors, Dieu est-il dit là dans ce chapitre 18 et au verset 20, « Vous a fait justice en la jugeant » et vous vous rappelez qu'en réalité il a jugé le jugement par lequel Babylone avait jugé les enfants de Dieu. Reprenons le verset 1 maintenant, du chapitre 19. « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia !» Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » On pourrait lire à peu près la même chose dans toujours dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4 et les versets 10 à 11. Et ce sont les 24 anciens et les quatre êtres vivants qui le prononcent. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Si nous poursuivons un petit peu maintenant avec le verset 2, nous trouvons ceci. « Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. » Le texte est fort. Babylone était corrompue, mais elle entraînait dans sa corruption toute la terre. Et donc, il est heureux que Dieu l'ait jugé et que Dieu ait fait cesser cette chose-là. Mais il va venger le sang de ses serviteurs, non pas en rendant coup pour coup, mais en redemandant le sang de ses serviteurs à Babylone. C'est-à-dire qu'il va lui faire rendre compte. « Tu as versé le sang de mes serviteurs, mais pourquoi l'as-tu versé ?» Et il va apparaître clairement que c'est injustement que ce sang a été versé. Ce qui apparaît, c'est la vérité. La justice apparaîtra. Et il ne s'agit pas, ni dans l'esprit de ceux qui ont souffert, ni dans l'esprit de Dieu, de se venger et de rendre coup pour coup. Il s'agit simplement de faire éclater la justice. Et c'est ce qu'ils demandaient déjà les martyrs au chapitre 6 et au verset 10, qui nous sont présentés comme des âmes sous l'autel. Verset 3, « Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. » Babylone disparaît. Et pourtant, l'histoire de Babylone, quelque part, va rester dans les mémoires. La fumée de ce feu monte au siècle des siècles. Ce qui s'est passé avec Babylone va servir pour l'éternité. Et on se souviendra non plus de la douleur qui a été occasionnée à dans ces circonstances, mais on se souviendra que le fait de s'écarter des voies de Dieu ne conduit qu'au malheur. Alors, abordons maintenant le verset 4. « Et les 24 vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia ». Les 24 anciens et les quatre êtres vivants s'associent à cette louange. Le fait qu'ils disent « Amen » prouve qu'ils s'y associent. Mais ils s'en réjouissent et ils disent « Alléluia ». Et nous nous rendons compte que leur préoccupation à ces 24 anciens, c'est le salut des hommes sur cette terre, c'est la défense. Ils ont certainement, certainement intervenus de manière forte et ils ont participé de cœur à cette lutte acharnée de la fin des temps. Mais le ciel tout entier y a participé. Et c'est pourquoi le ciel tout entier se réjouit de la chute de Babylone. Avançons encore au verset 5. « Et une voix sortit du trône, disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Ici, cette voix s'adresse à ceux qui sont encore sur cette terre, le peuple de Dieu. En d'autres termes, et nous les connaissons, ce sont les 144 000. Et nous allons voir, et nous allons avoir confirmation de cette chose-là. Verset 6, « J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fortes nerfs disant « Alléluia !» car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Alors une voix forte, comme un tonnerre, comme le bruit de grandes eaux, nous l'avons déjà entendu. Rappelez-vous, au chapitre 14 et au verset 1 et 2, sur la montagne de Sion, il y a les 144 000. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Il s'agit donc bien des 144 000. Et ils célèbrent également là le règne de Dieu comme la première foule. Ils se savent sauvés. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une particularité. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Et nous revenons un petit peu sur la notion de règne de Dieu. Quand nous avions abordé le chapitre 12, au verset 10, des voix se faisaient entendre proclamant le règne de Dieu. À ce moment-là, dans ce passage-là, il s'agissait pour les forces célestes de jeter Satan et ses anges dehors. Et en effet, une fois que Satan et ses anges étaient partis, alors le cœur des anges était entièrement acquis à Dieu, et on pouvait dire que Dieu régnait. À partir de ce moment-là, à partir de la mort de Christ, il n'y a plus de doute dans le cœur des anges. Dieu règne complètement sur leur cœur. Si nous allons un petit peu plus loin dans le temps, mais un petit peu avant dans le texte, au chapitre 11 d'Apocalypse, les versets 15 à 17, nous avons également une déclaration des 24 anciens. Lisons-la ensemble à partir du verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Le règne, c'est le moment où Dieu règne entièrement dans le cœur. Et là, à la septième trompette, le jugement de la maison de Dieu est terminé. Chacun a choisi son camp, chacun a mûri dans le bien ou dans le mal. Et pour ceux qui suivent Dieu, leur cœur est entièrement à Dieu. Dieu règne. Les 24 anciens au ciel le savent, mais il est probable que les élus sur terre ne le savent pas encore. Le moment où ils le savent, c'est le moment où Babylone tombe. Alors là, ils savent que la victoire est acquise. Ils savent qu'ils n'ont plus rien à craindre. Et ils donnent libre cours à leur joie. Quand nous avions vu le chapitre 12, et je vous rappelle ce qui se passait, au chapitre 12, au verset 12, on avait fait la distinction entre le ciel et la terre. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Au ciel, Dieu règne. Ça ne fait pas de doute. La mort du Christ a apporté la preuve définitive de la malignité de l'ennemi et de la bonté de Dieu. Mais si le ciel se réjouit, la terre est encore dans l'affliction parce que la lutte va encore être dure avec Satan. Arrivé au point où nous en sommes, au chapitre 19, c'est la même joie qui anime le ciel et la terre. Ce qui avait été obtenu pour le ciel à la mort de Christ est maintenant obtenu sur la terre au chapitre 19, juste avant son retour. Rappelez-vous cette prière de Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien là, nous arrivons au moment où la volonté de Dieu est faite dans son peuple, parmi son peuple au ciel et parmi son peuple sur la terre. Mais là, maintenant, ce sont les élus qui le savent. Alors revenons à notre texte d'Apocalypse 19, verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Les élus sur terre savent maintenant que les noces de l'agneau sont venues. Et comme le jour des noces, la fiancée se prépare, elle est toute belle et elle attend son fiancé. Son fiancé va venir la chercher. Elle le sait et elle est prête. C'est ce moment-là qui se vit, les noces de l'agneau. Elle s'est préparée, mais elle s'est préparée comment? Eh bien, il lui a été donné de se revêtir, verset 8, d'un vêtement, d'un fin lin éclatant et pur. Et ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le texte grec emploie ici un mot dikaiomata, qui est le pluriel de dikaioma, qui signifie justice. C'est, on pourrait traduire, la justice des saints. Mais c'est une justice appliquée. Si elle s'applique dans un tribunal, eh bien c'est une sentence, c'est un jugement, c'est un acquittement, une condamnation, mais c'est une décision de justice. D'un autre côté, si ça s'applique dans la vie, c'est une justice vécue. Et voilà pourquoi le traducteur a traduit cette justice par « les œuvres justes des saints ». C'est une justice vécu. Et j'aimerais vous donner confirmation de cela à travers le texte qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de répréhensible, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cette Église va paraître devant Jésus, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Quand la fiancée se prépare pour son fiancé, elle est ainsi. Alors au verset 9, l'ange dit, « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et Jean est tellement émerveillé qu'il va tomber aux pieds de l'ange. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voilà un texte important qui nous dit que même un ange ne doit pas être adoré. Et il relève Jean, il le relève avec douceur, mais il lui dit « Non, je suis ton compagnon de service. Mon rôle, c'est de transmettre le message. Et ton rôle, c'est aussi de transmettre le message. Et nous avons chacun à accomplir cette mission. » Et cet ange va dire qu'il est le compagnon de service de tous ceux qui ont le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, en l'occurrence, c'est l'esprit de la prophétie. Cet esprit de la prophétie, j'aimerais que nous en lisions la définition dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous en sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est le témoignage que Jésus rend à son peuple sur cette terre en lui donnant des dons et tout particulièrement le don de prophétie. Alors retenons cette parole. Nous pensons qu'il nous demande quelque chose de difficile, de remporter la victoire sur tout péché. Mais en réalité, c'est lui qui nous en donne la force. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est lui qui le fera.